Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. 4 sujets au sommaire de Soft Power ce soir. D'abord dans l'actualité, BFM TV, dont le PDG vient d'annoncer un grand projet de développement pour 2019-2020, avec l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel comme directeur de la chaîne. Sur ces questions, mais surtout autour de BFM Business et des évolutions de cette radio devenue une télévision, je reçois Stéphane Soumier, directeur de la rédaction de BFM Business. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
La FEMIS, l'école de formation des étudiants du cinéma, de l'audiovisuel et des séries télé. Nathalie Coste-Cerdan en est la directrice générale. Elle est mon invitée ce soir. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Pour une émission donc sur Faut-il fermer la FEMIS. Notre ancien directeur à France Culture, Bruno Patino, est aujourd'hui directeur éditorial de Arte. Il vient de publier La civilisation du poisson rouge aux éditions Grasset. Il est à 20h, votre invité Zoé Sfez.
Oui, ce livre c'est sous-titré Le petit traité sur le marché de l'attention, réflexion donc de Bruno Patino, très argumenté, belle compilation de la meilleure littérature sur les évolutions du monde numérique. Alors comment est-ce qu'on peut aujourd'hui gérer cette économie de l'attention qui déborde et qui a des, disons, conséquences lourdes à la fois sur la manière dont nous vivons et sur la manière dont nous nous pensons.
Elle déborde, c'est le cas de le dire, c'est une couverture avec un poisson rouge dans un bocal. Enfin, dernier sujet de Soft Power ce soir, dans le club de la presse numérique, on parle de la sortie d'Avengers Endgame, fin de partie cette semaine, et de sa diffusion très limitée sur les plateformes, occasion pour nous d'évoquer la chronologie des médias et la nouvelle plateforme de streaming de Disney Marvel annoncée pour 2020. C'est de ça qu'on parlera, Emmanuel Paquet, tout à l'heure.
Oui, puisque les chiffres viennent de tomber, donc c'est pour la première fois un film vient de dépasser le milliard de dollars au box-office en moins de 3 jours, et numéro 1 dans 44 pays, et a ravi des records dans 44 pays sur les 54 dans lesquels il a été distribué. Donc c'est une première mondiale, notamment en Chine. Marvel est en train de tout rafler.
Tout rafler, c'est le mot. Avengers Endgame, on en parlera dans le club de la presse numérique avec vous, Emmanuel Paquet de L'Express, ainsi que Vincent Cocasse de Libération. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Véronique Villa, avec en régie Pierrick Monsigny. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast. Vous pouvez vous abonner au podcast de cette émission, diffusée chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application de votre smartphone. Application podcast Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct.
Jusqu'à 9h. Good morning business.
Et donc Thibault Langsad. Thibault, PDG de Jouve.
Bonjour,
Gilles Lejean. Emmanuel Grimaud, donc, alors, comme tous les entrepreneurs. C'est Jean-Sébastien Méridon, le directeur général de Relais Colis, qui est avec nous. Bonjour.
Voilà, à l'instant, votre voix, on vous reconnaît, Stéphane Soumier.
Bonsoir. On entend bien aussi la différence de prise de son, quand même.
Avec France Culture. Ouais. Mais surtout pour une matinale.
Non, je pensais à la qualité de la prise de son. C'est vrai qu'en passant à la télévision, on a renoncé à une certaine qualité de prise de son. Et là, c'est frappant, quoi. Voilà.
Mais il y a aussi une énergie, souvent en radio, c'est quand même assez doux le matin. Alors vous, il y a un punch incroyable, on l'entend tout de suite là.
Ça, c'est un style. Vous avez choisi le vôtre, chacun choisit le sien.
Pour une matinale, je veux dire. Il faut...
Ah, les matinales sont quand même assez dynamiques, non? Alors, par définition et par construction, il y a très
là,
très longtemps que
je n'ai
pas entendu.
Non,
la matinale que j'entends, c'est la mienne dans le casque, donc il y a très longtemps que je n'en ai pas entendu d'autres. Ça fait 18 ans maintenant que je fais ça. Mais je crois qu'elles sont quand même assez dynamiques. Après, c'est propre à, on fait de l'économie. Et alors pour le coup, on a des équivalents européens. Et alors tous nos équivalents européens sont très soft, très calmes. Et c'est vrai que c'est là où on tranche. C'est sur le traitement de l'actualité économique à la manière radio libre. Voilà, on va dire ça comme ça.
Radio économique, mais aussi TV numérique depuis 2012 et TNT depuis 2018, ça change quoi? On a parfois l'impression, un petit peu en vous regardant, c'est une radio parlée, c'est d'ailleurs vrai aussi pour nous, hein, c'est pas forcément une critique.
C'est le sujet, c'est le sujet.
Comment on résout cette équation?
Je sais pas. Alors, c'est le sujet.
C'est faute de moyens, c'est ou c'est que vous voulez garder aussi la radio?
Où sont les images de l'économie? Voilà, à partir du moment où on décide, où on a décidé de mettre à l'image une radio économique, il faut s'interroger sur les images de l'économie, et les images de l'économie, elles sont rares, c'est compliqué. Alors il y a tout ce qui est, mais j'ai presque envie de dire réalité augmentée, alors les graphes, l'ensemble des infographies, l'ensemble des informations qu'on peut contextualiser par du texte. Ça, là, l'image est quand même très précieuse, particulièrement en économie. Hein, vous voyez une courbe, vous voyez des chiffres, vous voyez des pourcentages,
ça
c'est très bien. Mais après, c'est quand même des gars qui serrent des boulons, c'est des gars qui tapent sur des ordinateurs. Enfin bon, dès que vous parlez cybersécurité, vous vous retrouvez avec les mêmes images.
Ça peut être grand public, l'économie?
En France, c'est compliqué. Alors, on rentre tout de suite, non, parce que la question, elle est, en fait, quelle économie? Voilà. nous, on raconte la vie des entreprises. Hein, c'est le choix qu'on a fait.
Des petites et les grandes.
Des petites et des grandes, absolument. Des petites, des grandes, des moyennes.
On dit le gratin du CAC 40 et puis, comment dire, l'économie heureuse des startups, ouais, pour être un peu ironique.
Non, mais c'est pas idiot parce que la plus compliquée à raconter est en fait l'économie intermédiaire. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle entreprise de taille intermédiaire ou cet acronyme dingue à un moment de grosse PME. Vous décomposez ça, grosse PME, grosse, petite, moyenne entreprise. Ça devient drôle. Donc, ceux-là sont compliqués à saisir. Ils sont dans ce qu'on appelle maintenant les territoires, des gars qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas compris l'intérêt qu'il y avait à s'exprimer, l'intérêt n'ont pas compris le soft power, justement. N'ont pas compris qu'à un moment, l'incarnation du dirigeant, l'image publique qu'il pouvait donner, pouvait être une sorte de protection, pouvait délivrer des valeurs, pouvait servir une attractivité. Bref, cette entreprise-là est compliquée à raconter. Les startups, c'est un pur bonheur, c'est notre quotidien. Et puis les grandes entreprises, bah, c'est assez simple parce que c'est à peu près le seul endroit où on va pas, excusez-moi du terme, les défoncer pendant 10 minutes et où on va essayer de raconter ce qu'elles font. Et elles ont beaucoup de mal à raconter ce qu'elles font ailleurs dans les médias français. Donc c'est là où on a une place particulière qu'on cherche à défendre.
Il y a un côté un peu, Stéphane Soumier, vous êtes directeur de la rédaction de BFM Business, un côté un peu évangéliste, alors on vous taxe
militant
de chaîne libérale, mais c'est parce que vous décrivez ces business. Frédéric Oudéa, Société Générale, Daniel Ball, CIC, Martin Bouygues, Groupe Bouygues, Bernard Arnault, LVMH, Michel-Édouard Leclerc.
Ah non, Martin
Bouygues,
jamais.
Jamais.
Jamais. Le seul. J'ai 14 ans de.
J'allais vous demander quel est le.
S'il m'écoute, là, 14 ans de BFM Business.
Il a jamais voulu venir.
Jamais.
J'allais vous demander
Martin Bouygues a donné deux interviews en tout et pour tout. Ça fait 14 ans que je traite l'actualité économique. Martin Bouygues a donné deux interviews. La première, c'était aux Échos parce qu'il y avait eu une espèce de TF1 bashing de dingue, je sais plus pourquoi. Et puis ensuite, c'était après la fusion avortée avec Orange, voilà, et où il avait fallu qui disent que non, Bouygues n'était pas à vendre, alors qu'elle l'avait été quand même.
C'était donc l'anomalie de cette liste.
Ouais, c'est Martin Bouygues.
Les grands patrons français, ils viennent là, tous. Et pas ailleurs, souvent.
Ouais, et pour la raison que je vous ai expliquée. C'est-à-dire que, par exemple, Bernard Arnault, je me souviens quand il est venu, alors Bernard Arnault est assez rare quand même, et il avait fallu qu'on lui remette notre prix du grand patron de l'année.
Pour qu'il vienne.
Pour qu'il vienne, Oui, c'est comme ça qu'on arrive à les attraper. Là. Et quand on a terminé l'interview qui avait été assez longue, il s'est levé et dit « Ah, c'est la première fois que je peux parler de ce que je fais ». Et c'est quand même le problème, voilà, de la façon dont les grands patrons sont traités par les médias d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on s'intéresse assez peu à ce qu'ils font et on s'intéresse beaucoup à combien ils gagnent, à leurs responsabilités dans tel ou tel coin de la planète, etc. Et assez peu finalement à ce qu'ils font, à la gestion d'une entreprise multimilliardaire en chiffre d'affaires.
Vous dites c'est comme ça qu'on arrive à les attraper. On reproche aussi à cette chaîne d'être beaucoup dans le brand content. Alors le mot peut avoir beaucoup de sens. On pourrait dire publier reportage, on peut dire partenariat selon sens. Ouais. Quelle est la clarté des articles du Canard Enchaîné, Challenge, d'autres vous ont reproché ces partenariats financiers. Bon. Est-ce que
le Canard Enchaîné a écrit pas mal de trucs sur nous dont tout était faux. Alors donc, je sais plus, mais tout était faux. C'était même saisissant en fait.
Mais
quand vous lisez le truc, et alors à chaque fois d'ailleurs, c'est étonnant quand sur notre profession, c'est que quand vous êtes vraiment au cœur d'un sujet et que vous avez des gars qui commencent à écrire sur vraiment le sujet, mais que vous connaissez de manière pointue, vous dites pas quand même. Donc soit c'est faux, soit il a raté quelque chose.
Voilà. Mais indépendamment de relations qu'il peut y avoir avec Leclerc, Orange ou autre...
Ah non, il n'y a aucune relation avec Leclerc, avec Orange...
Alors indépendamment de ce qu'a dit le Canard Enchaîné, quel est le code de déontologie avec les entreprises
Le même que pour toutes les entreprises de presse, il n'y a pas de sujet là-dessus.
Bah non, il n'y a pas de publicité dans le premier réglé, mais Softpower ne finance pas Softpower.
Il
n'y
a pas de publicité sur France Culture.
Non.
Ah non.
Pas du tout.
Ah bah non, c'est le service public.
Mais il y en a sur France Inter, attendez, vous rigolez quoi.
Il y en a que dans la matinale à certains moments, mais non, il n'y en a pas. Et c'est pas vraiment la publicité.
Alors nous, ouais, on vit de la publicité.
Si c'est de la publicité, il y en a d'autres moments. Mais
nous, on vit de la publicité, et comme à peu près toutes les entreprises de presse, sauf le service public qui vit de l'argent du contribuable, on a une muraille de Chine. Vous savez, toutes les entreprises ont ça, une muraille de Chine entre la régie publicitaire et puis la rédaction. On parle de tout, quoi. Donc, je vois pas comment vous pourriez avoir une influence sur le contenu. Non, le sujet, l'influence sur le contenu, le vrai sujet, le sujet intéressant, c'est le propriétaire. Ça, c'est un sujet intéressant.
Comment on traite
Ah, ben voilà. Donc, tant qu'on était indépendant, Alain Veil, etc., presse indépendante, etc., et tout, il y avait zéro sujet. À partir du moment où votre propriétaire est Altice et donc un acteur important des télécommunications,
SFR.
Là, ça devient intéressant. Ouais, là, ça devient intéressant.
Et on fait comment?
Moi, j'ai joué un peu la provocation. C'est-à-dire que vous pouvez pas, personne ne peut prétendre, ça je pense qu'il faut que les... Mais ils réfléchissent là-dessus, les journalistes. Les journalistes ne peuvent pas prétendre que c'est inerte.
Voilà. Non, ça existe.
Ça existe.
On le sait.
Ça existe, et après, vous le gérez un petit peu comme vous avez envie de le gérer. Ça dépend, en fait, il faut être très franc. Ça dépend de la capacité que vous avez à vous imposer vis-à-vis, en fait, de ce propriétaire. À partir du moment où vous savez que... il ne peut prendre aucune sanction en arguant de ce que vous l'auriez maltraité à l'antenne. Parce que alors pour le coup, le soft power en prendrait un coup terrible, vous comprenez? Donc, j'ai fait un petit peu de provocation. Moi, voilà.
Puis on a des stratégies.
Parler de Xavier Niel, etc.
Il y a des stratégies de contournement.
De l'école 42. J'adore l'école 42, créée par Xavier Niel. C'est un truc extraordinaire, l'école 42. Voilà. Enfin, inviter le patron d'Orange et tout. Voilà. Enfin, voilà. Je me suis un peu amusé avec ça.
Mais défendre l'école 42, ça permet d'éviter peut-être les critiques sur Free ou SFR, etc.
Mais vous voyez, sans arrêt, vous êtes dans l'idée de faire des critiques. Ah, non, mais c'est intéressant, Frédéric. Bon Dieu, Free, c'est un truc de dingue. Enfin, il faut que vous imaginiez soft power. On est au cœur de. J'adore le
mot.
Aujourd'hui, donc soft power concentré dans la tech, on va en parler. Où est l'entrepreneur de tech français qui est monté une boîte multimilliardaire en chiffre d'affaires, lui donnant un tout petit peu de puissance? Xavier Niel.
Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on le reçoit. On a même un biographe de Xavier Niel autour de cette table. C'est dire l'importance qu'on lui accorde. Quelles sont les synergies possibles avec BFM Business, avec BFM TV, TV, L'Express, Libé? Comment vous voyez cette évolution?
Aucune.
Il y a un journaliste de L'Express aussi en face de vous qui n'a pas le droit de parler, aucune, mais qui est en train de s'étouffer.
Aucune. Alors, les synergies sont j'ai connu ça avant.
Deux crises cardiaques, vous en l'émission.
Avant, j'étais Europe 1 et c'était pareil. Lagardère, il voulait faire des synergies. Ça n'a pas de sens. J'ai toujours. Alors, oui, synergie de coût, ce qu'on appelle dans les entreprises synergie de fonction support, évidemment. Voilà. Mais synergie éditoriale, mais non, on est tellement différents. Alors, on en fait quelques-unes. On a notamment un éditorialiste formidable le matin qui s'appelle Nicolas Dose, qui intervient et sur BFM TV, sur BFM Business. Mais alors, c'est marrant parce qu'il est Janus, il est obligé de se couper en deux. Parce que BFM TV, même le mot TVA, limite, il faut l'expliquer. Et puis, BFM Business, au contraire, il peut se lâcher, on peut parler de l'action des banques centrales.
D'ailleurs, quand on arrive à BFM TV, par exemple, si on rentre dans le studio de RMC, on ne sait pas si on est RMC ou BFM TV, parce qu'il y a des caméras partout.
Ouais, enfin, c'est un peu RMC, BFM TV. Chez nous, c'est BFM Business, vous comprenez assez vite.
Qu'on est dans une radio, oui.
Ouais, non, surtout, vous savez où vous êtes. C'est-à-dire, si vous commencez à plus rien comprendre, c'est que vous êtes sur BFM Business.
Vous le disiez d'ailleurs à une époque, vous le disiez. Non, moi, je connaissais rien. Et les réponses, je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Ouais. En plus, ils parlaient des langues étrangères, ils ont des mots à eux.
Quand j'ai débarqué, j'étais viré par El Kabach d'Europe 1, et Alain Veil est venu me chercher. Et au départ, il venait d'avoir BFM TV. Et au départ, l'idée, c'était, j'ai besoin de vous, là, à BFM Business, donc vous restez une petite année, puis après, on fera BFM TV ensemble. Ok, super. Et effectivement, j'ai fait des interviews, j'appelais ça des interviews en langues étrangères. Les gars me parlaient de trucs que je ne comprenais absolument pas. Ça a duré 3-4 mois. Quoi.
Le temps d'apprendre. Ouais, pour l'auditeur, il faut aussi se former. Alors.
Ouais.
pour depuis quelques mois, vous êtes arrivé sur la TNT, sur RMC Story, ex ouais, numéro 23 pour la matinale.
Au coup de la matinale.
Ouais. Ça change quoi?
Ben j'en sais rien, on sait pas, c'est compliqué, je sais pas.
Les audiences sont.
C'est-à-dire que bon, les audiences, on est. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça?
Bah, c'est voilà, un peu une question méchante.
Non, mais voilà. non, parce que moi je suis très cool avec ça. BFM Business est un ensemble profitable. Hein, c'est ça qui nous donne notre liberté. Sans RMC Story. Donc on y va, on va voir. On fait à peu près 35 000 personnes au quart d'heure. 35 000 personnes au quart d'heure et vous avez 400 000 personnes à peu près, entre 400 et 500 000 personnes qui à un moment jettent un coup d'œil sur une matinale très exigeante, économique, qui parle des marchés, de l'action des banques centrales, de la vie des entreprises. Bon, voilà, je sais pas quelle est la jauge moi. Quel est le niveau du succès ou de l'échec? J'en sais rien.
Mais même peut-être vos patrons même ne le savent pas.
Alors eux, ils aimeraient bien qu'on soit ils aimeraient bien qu'on soit au-dessus eux, parce que après il y a RMC Story qui elle va avoir à un moment quand même un niveau de rentabilité à obtenir. Eux, il faut qu'ils aient
Et ils avaient fixé des objectifs trop élevés selon vous?
Non, c'est très ça se passe très bien. Non, franchement, ça se passe très très bien. On discute. Non, il y a pas de souci. Alain Veil voudrait que ce soit davantage de la télévision, il a parfaitement raison et on revient à ce qu'on disait au début, je sais pas comment.
Après c'est une question de moyens. De moyens, par ailleurs, c'est aussi une question de moyens.
Non, franchement, hein, ils sont prêts à nous donner tous les moyens. C'est ça qui est. Je sais pas quoi demander. Non, franchement, c'est pas une question de moyens. Très franchement, dans l'actualité économique, je ne sais pas ce que vous pouvez illustrer en images. Voilà.
Il y a un site aussi, il y a plusieurs sites, mais il y a notamment un site BFM Business Premium, ouais. En exclusivité sur SFR, et puis qui s'est élargi avec une dizaine de salariés. C'est important d'être présent.
Alors,
sur
ça, c'est.
Le nouveau projet.
Ça, c'est un. Alors, je dois être très franc avec vous, c'est un business dont je ne m'occupe pas. En fait, c'est Alexandre Jerzowski qui est le patron. Moi, j'ai récupéré le web BFM Business parce que j'ai considéré qu'on ne pouvait pas. Alors, je vais prononcer un terme que vous prononcez sans doute ici aussi, qui s'appelle omnicanal. C'est-à-dire, à partir du moment où l'ensemble des gens dont on parle, toutes les entreprises de France aujourd'hui sont ou doivent être omnicanal. C'est-à-dire que vous avez un produit, ce produit doit être disponible, le même, absolument sur tous les canaux de diffusion ou tous les canaux de vente. Je considérais qu'on ne pouvait pas externaliser. Il y a beaucoup d'organes de presse qui, d'une certaine manière, externalisent le web et ont des rédactions web. Je trouve que c'est un non-sens. Donc j'ai récupéré le web, mais en marge effectivement, il y a ce pôle SFR Presse, mais qui lui est très propre à SFR Presse. Emmanuel, à mon avis, en connaît mieux le fonctionnement que moi, parce que c'est vraiment pour le coup une tentative de presse que fait SFR en lien. C'est très Altice, quoi. Ça.
Donc c'est pour les abonnés SFR, ouais, ça voilà, permet ouais. d'avoir des exclus BFM Business
exactement,
Premium,
exactement.
Donc évidemment rémunérés, etc., qui
voilà,
permettent de d'avoir ce
mais qui fait vivre en fait ce pôle. Vous comprenez
avec
ce
une dizaine de salariés,
voilà, ce pôle est autosuffisant en fait, c'est un peu ça le sujet.
Comment se passe la matinale pour vous? Vous l'avez dit, vous étiez généraliste d'Europe 1, vous êtes maintenant, depuis déjà longtemps à BFM Business. Il y a un changement entre les deux et surtout, comment on est à la fois animateur et directeur en l'occurrence?
Animateur et directeur, on le devient. Parce que justement, ça nous ramène à Altice, c'est-à-dire que le choix, il a été à un moment, on savait pas trop ce qui allait se passer. Le rachat d'Altice, c'est quand même, ça a été, moi je l'ai vécu comme un tremblement de terre. Donc à ce moment-là, nous on est une toute petite entité, on est un confetti d'empire. Et le confetti d'empire, s'il fait pas attention, il peut se retrouver, il sait pas où il va se retrouver dans le.
Est-ce que beaucoup de gens ont pris la clause, par exemple, à BFM Business, la fameuse clause de conscience?
Non. Deux personnes, je crois, seulement. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, ça voudrait dire « Waouh, on est tellement confit dans ce qu'on fait qu'on a peur de l'extérieur ». Bonne nouvelle, c'est que, en fait, c'est génial ce qu'on fait. Ça n'a pas d'équivalent et donc l'ensemble de ceux qui le font sont ravis de le faire.
Dans l'actualité cette semaine, il y a l'arrivée annoncée de Marc-Olivier Fogiel pour diriger BFM TV. Donc c'est pas BFM Business, mais vous avez un regard sur cette nomination importante.
Aucun.
Vraiment aucun. C'est un animateur qui devient directeur aussi. Il a accepté d'abandonner et le divan et bien sûr ce qu'il fait à RTL.
Je suis désolé, j'ai aucun. Vous voyez que j'ai fait preuve de beaucoup de franchise. Je ne connais pas BFM TV, je ne connais pas Marc-Olivier Fogiel. Comme vous le dites, je suis directeur de la rédaction de BFM Business et je fais la matinale, les journées n'ont que 24 heures et déjà c'est pas mal. Et je me concentre sur ce modèle-là. Et c'est l'information économique ma passion et c'est l'information sur les entreprises et la façon dont les entrepreneurs peuvent avoir la parole qui m'intéresse.
Comme vous faites preuve de beaucoup de franchise, Challenge, mais aussi d'autres médias, les 3, etc. ont annoncé votre départ.
Ouais. Pour moi, je l'ai pas annoncé encore.
D'ailleurs, ça, vous l'avez. Voilà. Vous savez, un départ, on n'est pas toujours seul à l'annoncer, voilà. Mais en l'occurrence,
il y a des informations, puis voilà, elles n'ont pas été confirmées à ce stade.
Dans Challenge, c'est une réunion qui a lieu dans laquelle vous-même annoncez votre départ. Donc là, vous l'annoncez au moins en interne.
Voilà, en interne.
C'est faux,
c'est ni vrai ni faux. Disons que c'est pas pour l'instant.
C'est pas l'ordre du jour.
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et je vais parler comme les communicants du CAC 40.
Voilà. Fogiel n'arrive pas et vous partez.
Ah non, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, il y a une arrivée, il y a une départ.
Ah non, mais franchement, on est. Et puis alors, pardon, mais Fogiel, BFM TV, c'est le navire amiral, quoi.
Bien sûr, et puis enfin, c'est
du chiffre d'affaires, de la rentabilité, de l'audience. Nous, on est tranquille.
Alors, puisque
on est dans notre
vous
coin,
ne
on est,
partez voilà. pas, en tout cas pas encore, qui pourrait vous succéder si jamais un jour vous partiez?
J'en sais rien, on
quel est le portrait?
C'est
une question
à la
noix,
ça. Enfin, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant.
Autre question. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard?
C'est pas intéressant. Parlons de l'information économique. Parlons de la façon dont aujourd'hui on n'arrive pas. Vous voyez, c'est.
Mais est-ce que vous rachèteriez, par exemple, BFM Business, si vous le pouviez?
Alors, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est que, et ça, c'est très intéressant quand même. Quand vous investissez dans les médias, la régulation fait qu'en fait, votre investissement, il peut être rayé d'un trait de plume. Et il y a eu plusieurs tentatives, vous n'avez pas suivi ça, mais enfin, vous vous en souvenez pas, mais plusieurs tentatives d'LCI. LCI, donc, rate. Il faut aller vite. LCI rate le passage à la TNT, n'y croit pas. Mmh. Et puis, fait plusieurs tentatives pour y retourner. Et à un moment, Alain Veil a très peur. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'à la fin, qu'il a vendu à Altice. En se disant, bon Dieu, s'ils débarquent avec tous leurs moyens et tout, ça va être compliqué. Et la première fois, c'était il y a longtemps, il nous réunit quelques-uns en nous disant, bah, ça va être chaud, ils vont passer sans doute en gratuit, je sais pas ce que va devenir le groupe. Et là, effectivement, je me suis dit, tiens, il faut que j'ai les moyens de racheter BFM Business. Et donc, j'ai appelé mes copains du. Alors, pas du CAC 40, parce qu'eux, ils achètent rien. Mais les gens qui ont de l'argent, eux, ils. Et ouais, on aurait pu racheter BFM Business. Mais c'est fini, le projet est avorté maintenant.
Ça, c'est pas fait. Non. Comment on voit comment ont été vécues un certain nombre de tensions, je pense aux critiques très fortes sur ça ne vous concerne pas hein, puisque c'était le directeur de Libération Pierre Friedenreich qui était votre directeur démissionné soudainement à cause de l'affaire du Gabon Tracfin Libération.
Enfin, il a démissionné très exactement parce qu'il n'a pas été soutenu. En fait, c'est ça le sujet. Lui se dit totalement innocent de la moindre malversation, hein. Totalement.
Et ça lui permettra en tout cas de pouvoir se défendre, puisqu'il la présomption d'innocence demeure en l'occurrence. On vous reproche une émission...
Non mais je tiens à dire quelque chose, c'est que quand il est arrivé, BFM Business perdait structurellement de l'argent. Mais structurellement, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, on perdait 3-4 millions d'euros parce qu'on n'arrivait pas à rentabiliser la télévision. Deux ans après, il nous faisait gagner 2 millions d'euros. Voilà.
Donc c'est lui qui a redressé complètement...
Totalement.
On vous reproche une émission sur la Chine qui serait gentiment sponsorisée
par la Chine. Alors elle est pas gentiment sponsorisée par la Chine. Elle est sponsorisée par Radio Chine Internationale et c'est pas au vu et au su de tout le monde absolument. Donc oui effectivement.
Mais ça fait partie du modèle économique de la chaîne du coup d'avoir des émissions.
On aurait pu, on n'en avait pas besoin. Hein, mais simplement c'est très intéressant. Moi j'aime bien les procès d'intention. Après il faut aller regarder ce qu'on fait. Donc allez regarder ce qu'on fait. Allez regarder des entrepreneurs qui, tous les soirs avec Erwan Maurice, témoignent de ce qu'ils font en Chine, des tensions de la Chine. Mais bon Dieu, mais personne ne va vous raconter les tensions de la Chine et ce qui est en train de se jouer en ce moment, comme ces entrepreneurs qui reviennent, qui sont face. Il y en a un, là, l'autre soir, il est face à des gars tétanisés qui n'arrivent plus à prendre de décision parce que le pouvoir aujourd'hui a renforcé, mais vraiment son étau. Et donc on a peur de se gourer et qu'on sait que maintenant si on se gourre, c'est à nouveau les mines de sel alors que c'était peut-être plus le cas il y a quelques...
J'avais vu ça justement et c'est pour ça que je vous posais la question et c'est pour ça que vous avez répondu. On ferait une émission avec RT par exemple.
RT
Russia Today.
Tant que moi j'ai le contrôle de l'éditorial de A à Z.
Peu importe.
Après mon gars, si tu veux mettre Russia Today en haut et nous donner de l'argent et sponsoriser ça, j'ai pas de problème. Enfin, j'en sais rien, faudrait regarder. Mais en l'occurrence, Radio Chine Internationale, chacun sait ce que c'est. C'est affiché. Enfin, vous comprenez. On ne triche pas avec le régime chinois. Voilà.
Dernière question. Éduquer à l'économie des marchés, éduquer aux médias.
On éduque pas, on raconte.
Le traitement de l'économie, comment vous le voyez plus globalement, indépendamment de business?
Et ben, c'est ça le sujet pour moi. C'est-à-dire que c'est qu'on est sans arrêt dans le conflit idéologique. C'est-à-dire que si je ramène ça à la géophysique, on a encore quand même la moitié des médias qui de temps en temps donnent la parole à des gens qui disent que la Terre est plate. Et ça, oui, ça me pose un problème. Donc, la Terre est ronde.
Donc, il y a un vrai problème en France
de traitement de l'économie de marché. C'est pas un jugement de valeur.
L'économie de marché. L'économie de marché. C'est pas la seule économie. Enfin, vous parlez économie de marché, mais business, oui, mais finance.
C'est la seule. Enfin, c'est la seule aujourd'hui en France. Ouais, voilà. Ouais. L'économie de marché,
enfin. Mais ça même peut faire l'objet d'un débat. C'est ça que je veux dire.
Oui. Mais si vous racontez l'économie aujourd'hui, vous êtes obligé de raconter l'économie de marché. Point à la ligne. Même l'économie sociale, collaborative, solidaire, elle est dans l'économie de marché.
Vous aimeriez qu'on traite les faits, qu'on raconte des choses qui font unanimité, d'une certaine manière, et après, il y aurait le débat idéologique, alors que les deux sont totalement mêlés en France.
Totalement mêlés. En permanence, sans arrêt. Vous pouvez pas parler tranquillement d'entreprise. C'est pas possible. Voilà. Et ça, je crois que ça, ça pose un vrai problème. Les entrepreneurs ne peuvent pas être de vrais héros en France. Ça pose un vrai problème.
Stéphane Soumier, directeur de la rédaction de BFM Business, au moins ce soir encore, le 28 avril, dimanche, au moins à 19h25.
Et demain matin aussi, je vous assure.
Dans un instant, je reçois Nathalie Coste-Cerdan, directrice de la Fémiste, mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot avec vous, OSFS, sur Sofiane, Soul King et Planète Rap.
Mais là, on écoute un disque, on écoute Sofiane, dit aussi Fianso, qui est dans cette chanson Madame Courage en duo avec Soul King. Alors ça, c'est un morceau qui a plus d'un an. C'était extrait de l'album Les Affranchis de Sofiane. On parle de ce rappeur parce qu'il a 32 ans. Il a une place assez à part dans le paysage du rap. Parce qu'après plusieurs succès, il a lancé une série de vidéos YouTube baptisée Rentre dans le cercle. Il a voyagé dans toute la France à la recherche de talents locaux qu'il signe sur un label propre. Histoire d'être un petit peu son propre patron. Et parmi eux, donc, il y a Soul King qui, un an plus tard, là, juste à l'automne dernier, a sorti son album. Et Sofiane l'a présenté dans une émission qui s'appelle Planète Rap. La vidéo en est à plus de 207 millions de vues. Elle est regardée en France, en Turquie, mais surtout au Maghreb. Énorme succès ensuite pour ce garçon Soul King avec des titres comme Dalida et Liberté, qui est devenu un hymne en ce moment des manifestations en Algérie. Je vous parle de lui parce que Sofiane Zermani, c'est son vrai nom. Et bien, il y a des origines qui s'élargissent pour ce jeune homme. Et il va interpréter Gatsby dans un concert fiction avec France Culture. Ça, c'est le 2 et le 3 mai prochain. Donc, c'est mercredi et jeudi. C'est ici.
Les rêves restent inférieurs dans la gueule du loup, dans la cage du lion. Ni force pour m'en sortir, ni partage d'union. Soit je pardonne personne, j'ai les yeux rougis. Croisé un démon qui a soufflé ma bougie. Réveille pas l'autre, moi va pas le faire rager. Dans une rue du 9-3 d'un quartier d'Alger, je connais plus personne, ce soir j'ai 15 ans. Rien à branler comme de mon premier bain de sang. Le ciel me haga, les étoiles se moquent. J'ai la vengeance des rues, le regard des blocs. Et rien ne va plus, les jeux sont faits dans les sommes. Pas un seul chat pour m'aider, ça a les hommes. L'une des détruit mes nuits, l'autre qui tue le sommeil. Ce soir c'est fini, je n'ai rien plus le soleil. Fianzo.
France Culture, il est 19h28.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nathalie Coste-Cerdan, directrice et directrice générale de la Fémis. Rebonsoir madame.
Rebonsoir.
Or, beaucoup pensent parfois que la Fémis incarne une sorte de passé du cinéma français, un peu une forme d'obsolescence, parce qu'il serait trop dans le cinéma d'art. L'arrêt, c'est au fond le fameux directeur, c'est-à-dire réalisateur qui serait l'auteur du film, etc. Est-ce qu'il faut supprimer la Fémis?
Cette question provocante, je dirais, pourquoi? Puisque, en fait, à la fois, la Fémis peut se prévaloir d'être une des écoles les plus ouvertes, notamment aux étudiants boursiers dans l'enseignement supérieur. Il y a près de 40% d'étudiants qui, aujourd'hui, reçoivent des bourses d'État ou des ressources ou des bourses privées. D'autre part, qui...
avec même des parcours fléchés pour eux, dans certains
avec
cas.
Avec certains parcours fléchés, comme la résidence. D'autre part, qui permettent à ces étudiants dans 11 sections différentes de bénéficier d'un parcours accéléré qui leur permet d'entrer beaucoup plus vite dans la vie professionnelle ensuite et de réaliser des films ou des séries.
Ça, c'est la résidence, c'est ça? Non,
c'est l'ensemble de nos étudiants qui, lorsqu'ils sortent de l'école, une dernière étude que nous avons menée d'insertion professionnelle montre comment 90% d'entre eux trouvent un travail dans le métier pour lequel ils ont été formés dans les 9 mois qui suivent. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez à remarquer. L'autre élément, donc, c'est accélérateur de parcours et aussi reconnaissance à la fois par les réalisateurs ou les chefs opérateurs ou les décorateurs que l'école contribue à former et qui, comme François Ozon, Céline Sciamma, ou plus récemment.
Vous citez des noms, mais repartons du départ. C'est quoi la Fémis, créée quand et quelle est cette école que tout le monde connaît au fond pour être un des emblèmes du cinéma français?
Les prédécesseurs de la Fémis, c'est l'IDEC qui a été créée en 1943 dans le cadre d'une grande politique culturelle et cinématographique lancée notamment par Jean Zay. Et l'enjeu à l'époque, c'était de former des réalisateurs, des scénaristes, des monteurs, sachant que Louis Lumière avait, elle, le privilège de monter des techniciens. Oui. Et il se trouve que cette école a formé des réalisateurs, alors je vais encore dire des noms, désolé, mais comme Alain René, Costa Gavras, enfin, des très grands réalisateurs, mais qu'au bout d'un moment, elle a été aussi un peu suspectée de favoriser la qualité française parce qu'elle avait un enseignement peut-être un peu trop académique. Et à partir de là, il y a eu notamment il y a eu mai 68 qui a contribué à complètement redéfinir les termes de la pédagogie, en particulier sous l'influence des étudiants qui sont très présents toujours dans la manière dont les programmes sont conçus. C'est un peu une marque de fabrique de l'école
et qui s'oppose. Parfois, il y a 4 ans, il y a eu ça, il y a eu une forme de petite rébellion. Il y a des moments encore où ils vont participer.
C'était en 2006. C'était il y a plus longtemps, 2009 pardon, c'était il y a un peu plus longtemps. Donc depuis, on est dans des eaux plus tranquilles, parce qu'effectivement, comme ils sont totalement associés à la pédagogie, ils font partie notamment d'un comité dans lequel tous les mois, on vient leur rendre compte de ce qu'on est en train de faire, des évolutions, et ils sont appelés à donner aussi leur avis. Et je pense que c'est quelque chose, la démocratie fonctionne bien à l'école et nous permet justement d'éviter ces grandes crises. Alors peut-être qu'il y aura des grandes crises, j'espère pas sous mon mandat, mais ça fait partie de la vie de l'école.
Alors, vous le dites, effectivement, on peut regarder même la sélection cannoise. Vous avez, bon, Céline Sciamma, par exemple, est sélectionnée cette année, mais c'est pas la seule d'ailleurs à être issue de votre école.
Ils sont 8.
Ils sont 8. Mais, très intéressant, quasiment tous les gens que vous venez de citer sont issus de la filière scénario et pas de la filière réalisation. Les scénaristes s'en tirent en général beaucoup mieux. On a l'impression, hein, quand on regarde Céline Sciamma, c'est scénario, Thomas Caillet, c'est la filière scénario. Les réalisateurs, on a l'impression que ça marche pas nécessairement moins bien, mais en tout cas, ils sont moins immédiatement, ils ont pas un scénario à vendre quand ils sortent. Et il y a des bruits qui courent parmi les étudiants que peut-être la filière réalisation pourrait être amenée à disparaître. Ce serait assez fou. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
C'est comme une question tout à l'heure, ça va pas aussi vite. Déjà, dans le temps de l'éducation, c'est un temps long. Donc d'abord, avant de faire quoi que ce soit, il faut bien réfléchir.
D'abord,
bien peser.
On fait tout d'ailleurs, au début. Quand on rentre à la Fémis, on fait tout.
Notamment la première année, les étudiants passent dans tous les postes, histoire de comprendre que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, le cinéma, c'est pas uniquement l'affaire d'auteurs éclairés, des artistes, c'est aussi une affaire collective dans laquelle il faut que chacun comprenne, puisse être en mesure de dialoguer avec l'autre, et ça, c'est quelque chose que l'école conduit avec beaucoup d'engagement.
Et tout le monde fait des films à la fin, en plus, c'est surtout ça.
Et la première année, déjà, oui, tout le monde fait des films. La première année, tout le monde fait des films en dernière année. Sachant que c'est un petit peu dans cet espace d'expérimentation. La dernière fois, ils auront peut-être l'occasion, justement, de conduire un film. Mais ça va si vite que j'oublie même les questions.
La question, c'était la réalisation, la filière réalisation. Vous y pensez ou pas à peut-être un jour, finalement, la diluer dans d'autres fonctions? Parce qu'il serait, le réalisateur, auteur à la française, quand il est formé à la réalisation et qu'il sort pas avec un scénario?
L'idée, c'est de toute façon qu'on a déjà intégré cette dimension-là. C'est vrai qu'en fait, les réalisateurs subissaient la pression de l'ensemble de l'école parce que c'est chaque fois eux qui sont à la tête de ces projets. Il y a un film par an qui sont faits par les étudiants, par chaque étudiant. Et que nous avons donc introduit pour la filière réalisation, l'obligation d'écrire un long métrage qui leur sert un petit peu de viatique à la sortie, parce qu'effectivement toute l'économie du cinéma est fondée sur un texte, ce qui est assez paradoxal. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre il y a désormais 2 ans, dont on commence à mesurer les fruits. Et en particulier, par exemple, sur Cannes, vous disiez, il y a beaucoup de gens du scénario, mais il y a à la semaine de la critique, le film d'ouverture, c'est un étudiant qui est sorti de la filière réalisation. Savoir ce qu'on va faire demain, probablement qu'il y a une grosse réflexion autour de cette filière réalisation pour essayer effectivement peut-être de fonctionner davantage sous forme d'appel à projet que systématiquement désigner et flécher à l'origine quelqu'un qui va être réalisateur, alors que c'est l'enjeu d'une sélection énorme, puisqu'en fait c'est parmi nos étudiants, tout le monde veut être réalisateur. C'est-à-dire qu'en fait sur les 1500 étudiants qui présentent, candidats qui présentent l'école, en fait, il y en a 500 qui se destinent à la réalisation. Et évidemment, la sélection est très forte, puisqu'en fait, sur cette filière-là, c'est seulement 2% des étudiants que nous sélectionnons.
Emmanuel Paquette.
Oui, justement, sur la sélection, il se trouve qu'aujourd'hui, enfin, en 2018, il y avait 1333 inscrits. Au concours général, il y a eu 38 personnes admises. Ça fait quasiment 2,8%. Donc, c'est vraiment une dure sélection. Et dans le même temps, quand on voit la demande, notamment sur les séries télévisions, aux séries télé, il y a une explosion. En France, on a dépassé les 995 heures de fiction en 2018. On approche des 1000, donc c'est une croissance de 14%. Aux États-Unis, entre 2002 et 2018, on passe de 182 nouvelles séries à 495 nouvelles séries. Donc on voit que la demande est énorme. Et vous, votre offre, elle reste toujours la même. C'est-à-dire que vous ne bougez pas. Alors là, ce serait une question à Stéphane Soumier. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne devez pas augmenter le nombre de personnes reçues? Notamment, moi, j'ai beaucoup souffert de ne pas avoir été admis à plein de grandes écoles.
Ni à l'ENA, ni à la FEMIS. Voilà,
pour répondre à cette demande, parce que cette demande des séries télé, on est en train de rentrer dans l'âge d'or des séries télé. Et on voit que, nécessairement, le nombre d'étudiants qui sortent de chez vous ne vont pas suffire à remplir justement les demandes du marché.
Mais depuis que la section série a été lancée, il y a 5 ans, on a déjà formé 50 scénaristes pour la série seulement. Il se trouve que dans le domaine de la série, on a également la série maintenant est présente dans le cursus général, c'est-à-dire qu'en fait on ouvre des tas d'exercices pour que nos étudiants puissent à la fois être non pas compatible vraiment entre série et cinéma, mais en tout cas avoir l'opportunité de faire de la série s'ils en ont le souhait. On a aussi tout un département de formation continue qui là aussi révèle des vocations non seulement à la série, mais aussi à cette fonction très discutée en France de showrunner. Donc au global, c'est presque 50 étudiants par an, scénaristes, qui potentiellement peuvent écrire des séries. Et si on se dit qu'on fait ça tous les ans, finalement, au bout de 5 ans, 5 fois 5, ça fait 250 personnes. Il faut après être en mesure de donner à ces gens du travail, d'être en mesure qu'ils ne soient pas paupérisés par une tendance générale qui est aussi qu'il y a des cycles. C'est-à-dire qu'effectivement, là, en ce moment, on est dans l'hypercycle de la série. Mais jusqu'où d'autres facteurs plus objectifs, comme par exemple le fait que les gens n'aiment pas tellement les deuxièmes saisons de séries et commencent à se lasser, le fait que, bon, on est peut-être dans une, non pas dans une bulle, mais quand même dans un phénomène qui, là, aujourd'hui, est en très forte croissance, mais qui peut se stabiliser. D'où l'idée pour nous, c'est au contraire d'arriver à essayer d'entretenir une espèce de double regard, de polyvalence, entre guillemets, pour faire en sorte qu'il y ait des passerelles fortes entre ces filières cinéma et séries, et comme c'est d'ailleurs le cas aussi dans le monde professionnel. Donc pour répondre à votre question, je n'ai pas le sentiment qu'on soit tellement marginal au regard des grosses tendances de croissance de l'univers des séries et qu'au contraire, on est bien accroché pour être en mesure de fournir à ce secteur des gens qui sont extrêmement bien formés.
Et de voir comment... Non, mais c'est quoi un showrunner?
Je sais pas, il y a un mot dans le rapport de Alex Berger qui est de dire, je crois que c'est dans son rapport, mais de dire... le showrunner, c'est l'architecte et le producteur, c'est l'entrepreneur. Ben, c'est un peu ça. Le showrunner, c'est l'architecte.
En fait, c'est le directeur créatif de la série, à la fois celui qui l'écrit très souvent et qui dirige le réalisateur. Donc, c'est une sorte d'auteur, pour le coup, à la fois vraiment auteur.
C'est un auteur augmenté, comme on disait tout à l'heure, à savoir quelqu'un qui a à la fois des compétences artistiques. Il est clair que ça doit être un scénariste, à la base, et qu'ensuite, il va acquérir des compétences en termes de production, en termes de direction artistique, en termes de tournage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit justement très en pleine connaissance, une vision transversale pour assurer à la fois la continuité du récit, la continuité de la direction artistique pour faire que tout le monde contribue à la même série. Et donc il a un rôle clé et c'est vrai que c'est des profils qui sont très difficiles à trouver. En France, vous avez raison, il n'y en a pas beaucoup, d'où l'idée qu'il y a des
Fanny
besoins.
Fanny Herrero sur 10% par exemple, qui est une des showrunners.
Qui est d'abord effectivement une scénariste, mais qui a monté en compétences pour arriver à devenir showrunner. Mais il y a aussi beaucoup de manque aux États-Unis, c'est-à-dire on le dit assez peu, c'est-à-dire qu'en fait le différentiel de puissance de l'économie américaine dans le domaine des séries, où il y a à peu près 450 séries par an, nous il y en a plutôt 70, là-bas aussi il y a énormément de besoins sur ce type de profil et c'est vrai qu'il faut du temps pour faire qu'un showrunner devienne un très bon showrunner, c'est-à-dire qu'en fait il faut non seulement des compétences donc techniques dans tous les domaines qu'on vient d'évoquer, mais aussi avoir vécu, il faut avoir vécu beaucoup d'histoires pour être en mesure de savoir les raconter. Et
un bon showrunner, un exemple français connu, c'est Éric Rochon, bien sûr, et vous citiez Alex Berger, qui a été le producteur de la série évidemment concernée, à savoir le Bureau des Légendes, et vous citiez aussi le rapport Berger sur une nouvelle organisation de la section sérielle en France, un rapport qui a été remis tout récemment au CNC au mois d'avril, et on le recevra dans cette émission le 12 mai prochain. Nous sommes à la FEMIS avec quatre étudiants qui suivent la formation sur l'écriture des séries TV, justement, des futurs showrunners. Ils s'appellent Sylvain Caron, Vladimir Ollet, Elsa Vasseur et Marion Carnel qui écrivent collectivement des séries.
Déjà, une série, généralement, s'écrit collectivement. Donc, la plupart du temps, quand c'est notamment 6 fois 52 épisodes, on a plusieurs auteurs sur chaque épisode. Il arrive qu'un auteur écrive une série tout seul, mais là, c'est de l'ordre du miracle, puisque comme les délais sont de plus en plus courts, il faut écrire très vite. Donc, d'où le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui travaillent sur une série, en fait.
Il y a vraiment tous les cas de figure parmi les scénaristes. Il y en a qui sont très contents de se cantonner à l'écriture, d'autres qui ont vocation vraiment à faire la direction artistique sur leur propre série, c'est-à-dire être impliqués dans le choix du casting, dans même la réalisation globale. Donc vraiment, il y a tous les cas de figure qui existent.
Et c'est génial qu'ils aient créé il y a quelques années cette formation-là, parce que ça montre qu'ils prennent en compte que le marché change et que la série télé a de plus en plus de place en France.
Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment changé en France sur les séries, où il y a une part plus équitable qui se répartit entre le travail du producteur, du réalisateur et du scénariste, où chacun prend conscience qu'il a besoin de l'autre.
Et ça c'est mieux, je trouve qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de travail collaboratif entre le scénariste et le réalisateur. Mais le réalisateur a quand même de la place en fiction et il fait un travail quand même remarquable qui est de mettre en image ce que nous on va écrire.
Comment est-ce qu'on apprend à écrire et comment est-ce qu'on vous recrute pour être de futurs bons auteurs ?
Alors, déjà, avant ça, moi je tiens juste à préciser quelque chose, c'est qu'on peut avoir l'image de la FEMIS, comme moi je l'ai eu, quelque chose de très parisiano-centré, très bobo, et en fait je suis très étonné par la variété des gens. Nous, dans notre promotion, il y a vraiment 5 personnes sur 6 qui viennent de la province, comme on dit, qui ont des profils extrêmement variés. Donc je pense que c'est vraiment très ouvert comme école, contrairement à l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur. Et le concours est très égalitaire, puisque ça dépend pas des bonnes notes qu'on a pu avoir avant. Nous, dans notre cas, c'est une formation presque professionnalisante, donc il faut avoir une expérience d'écriture significative avant. Mais ensuite, ça se fait sur une épreuve sur table de 7 heures pendant laquelle on doit écrire le résumé du premier épisode d'une série avec un thème imposé et une scène dialoguée. Si on est sélectionné pour ça, ensuite on a un oral. Et donc vraiment tout le monde a sa chance là-dedans. S'il peut témoigner au départ d'une expérience d'écriture, il peut passer le concours et ensuite voir s'il rentre dans la formation.
C'était quoi le sujet sur lequel vous êtes tombé ?
Nous, c'était série mafieuse, thème succession.
Je pense qu'on apprend à écrire de la série télé aussi en regardant beaucoup et en décortiquant et en analysant pour essayer de comprendre comment sont construits les épisodes. C'est une très très bonne école et dans notre formation à la FEMIS, on fait ça. On analyse régulièrement des épisodes de séries et c'est vraiment une très bonne école formatrice.
Vos séries préférées ?
En ce moment, j'ai adoré Killing Eve, qui n'est pas la série la mieux construite, mais qui m'a emballée. Et sinon, je me remets à des vieilles séries. Je regarde Twin Peaks et Downton Abbey en ce moment.
Et vous ?
Alors j'aime beaucoup Downton Abbey aussi, donc on se rejoint sur ça, et certainement True Detective, la saison 1, qui est pour moi un chef-d'œuvre de polar, voilà. Et ensuite une série qui est sur Netflix en ce moment, qui s'appelle The Haunting of Hill House, qui est une série d'horreur, mais qui parle aussi de la famille et du deuil, qu'il faut vraiment regarder parce que c'est un chef-d'œuvre, voilà. Il y a notamment un épisode où c'est l'épisode 6, où c'est 5 séquences, seulement 5 séquences. Donc tout a été répété avec le metteur en scène qui est aussi le scénariste. Et c'est absolument magnifique, voilà.
Et vous ?
Bah, moi, c'est parfaitement incohérent. Ma série préférée, c'est Girls, et mon autre série préférée, c'est Rick et Morty. Donc voilà, peut-être qu'il faudra faire un jour un Girls meets Rick et Morty, comme on dit dans les bonnes maisons de production. Mais je sais pas à quoi ça ressemblerait. Mais oui, voilà, en fait, c'est des séries totalement différentes, mais qui illustrent bien, justement, aujourd'hui, la diversité qu'il peut y avoir dans ce domaine-là.
Moi, cette année, j'ai regardé You, avec beaucoup de plaisir, qui est une comédie romantique, mais avec un érotomane psychopathe. Donc c'est vraiment bien, bien pensé. Et là je regarde The Terror, qui est deux bateaux piégés dans la glace, basé sur un fait historique, qui est super. Je pense que longtemps justement on a pensé qu'on pouvait pas apprendre à écrire, et tu sais, la comparaison avec la musique, c'est comme si on disait qu'en musique il n'y a pas de solfège. La grande valeur ajoutée pour moi de notre formation, c'est qu'on a une dramaturgie sérielle, très différente de la dramaturgie de long métrage, sur laquelle on met beaucoup l'accent, et qui vraiment pour moi m'a ouvert les yeux sur plein de choses que vous voyez tout simplement pas avant dans les séries et qui maintenant me saute aux yeux. Donc voilà, il faut écrire, mais il y a aussi une théorie qui existe, qui n'est pas absolue, mais qui est comme une forme de, d'apprentissage, comme un maçon apprend à faire un mur droit. Bah, c'est pareil, il faut apprendre à faire une scène droite avant de la faire dans n'importe quel sens, mais on saura pourquoi on l'a fait dans n'importe quel sens.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h45 en direct sur France Culture. Vous êtes dans Soft Power, le magazine des industries créatives, culturelles et du numérique de France Culture. Nathalie Coste-Cerdan, directrice générale de la FEMIS, est mon invitée ce soir. On écoutait des étudiants parler des séries qu'ils aiment. Deux questions brèves. Premièrement, ça vous fait pas un peu de peine qu'on parle autant de séries et moins de films? Et deuxième question, vous aimez les séries? Quelle est votre série préférée?
Alors déjà deux questions. La première, ça me fait de la peine, pas du tout, parce que c'est un des
secteurs créatifs, innovants,
des domaines dans lesquels la FEMIS a vraiment un pied pour répondre justement aux besoins de formation du secteur, et aussi parce que ça correspond à un aimant pour tous les professionnels, les acteurs, les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes, et que on doit être dedans. Ma série préférée, c'est difficile de répondre à ces questions.
On l'a posé aux étudiants, on peut le poser à la directrice.
Je suis beaucoup moins pointue que nos étudiants, mais je dirais Borgen, qui est assez ancienne, mais qui... Super. Je pense que je me suis beaucoup identifiée à cette première ministre.
Stéphane Soumier.
Pour moi, c'est Breaking Bad qui a été quand même un choc. C'est le moment où je me suis dit, ah oui, tiens, les séries, ça peut être quelque chose d'intéressant. En fait, ça a été une révélation. Mais juste, je peux me permettre,
voilà, parce que,
on a eu la chance sur BFM Business de recevoir Reed Hastings, donc le patron de Netflix, qui a vraiment lancé un appel, en fait, à l'ensemble des créateurs en disant, mais c'est l'Eldorado devant vous. Donc lui, il met 10 milliards de dollars de production, c'est ça, je crois, 10 milliards de dollars de production. Qui paye l'ensemble de votre système? Et quand vous dites 90% de vos étudiants trouvent un travail, ce qui est un chiffre mais vraiment considérable, hein, trouvent un travail, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire, ils ont... Alors d'abord, qui paye la spécialité de cette émission, c'est de poser deux questions en même temps, et je n'ai qu'un cerveau. Parce que je
sais
que
généralement, on écoute une seule réponse.
Non.
Donc la première, c'est une école publique, et c'est vraiment ça, sa beauté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une école... C'est pour ça qu'elle est
sans publicité, comme France Culture.
Qu'elle est tellement ouverte, c'est-à-dire qu'elle permet à chacun de pouvoir suivre ses cursus. Et la deuxième question, c'est 90%, parce qu'en fait, on a à la fois on forme à trois catégories de métiers. On forme des métiers artistiques, réalisateurs, scénaristes, en forme des métiers technico-artistiques comme monteur, chef opérateur, ingénieur du son, et enfin des métiers économiques, distribution. Et il y a des décorateurs aussi par là. Mais ce spectre aussi large, on est les seuls à le proposer. Donc on favorise beaucoup les interactions entre tous ces métiers à travers la fabrication des films. C'est une école qui est fondée sur pédagogie très pratique. Et d'autre part, donc à la sortie, tous nos enseignants sont des professionnels. C'est un modèle, c'est une école sans cours et sans prof, de sorte que l'effet réseau permet justement d'accompagner ces étudiants à la sortie vers des longs métrages, vers des séries. Et en particulier, il y a un exemple assez frappant qui était une jeune chef opératrice, Éponine Momenceau, parce qu'on suit toujours des réalisateurs, qui en fait est sortie de l'école, a été repérée par Jacques Audiard et a été la chef opératrice de Dipan, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. De sorte que ça peut faire, comme je le disais tout à l'heure, un espèce d'accélérateur de carrière.
Emmanuel Paquette.
Oui, je voulais revenir sur les difficultés d'EuropaCorp. Aujourd'hui, c'est vrai que quand EuropaCorp va mal, c'est tout le cinéma français qui tombe malade. Là, en l'occurrence, quand on voit les entrées en salle à l'étranger, c'était 40 millions d'entrées en 2018. En 2017, grâce à Besson, c'était 82,5 millions d'entrées, donc c'est quasiment deux fois moins. Et dans le même temps, on voit que la Cité du cinéma, qui devait faire sa rentrée scolaire en 2018-2019, a été repoussée faute de moyens financiers. Quelle est votre perception de ces difficultés de Besson? Est-ce que ça a un impact aussi sur la filière en France d'avoir un gros studio indépendant qui aujourd'hui se porte mal?
Ben, vous l'avez souligné, le fait que effectivement à l'international il y a un vrai contre-coup de cette mauvaise santé financière d'EuropaCorp et des difficultés aussi de Luc Besson en particulier, sachant qu'en fait c'est un enjeu justement pour le cinéma et les séries d'avoir cette visibilité à l'international. Parce que la particularité de nos séries françaises, c'est qu'elles sont extrêmement bien reçues et regardées par le public français. sur le service public, sur les chaînes artiennes. En revanche, elles ont un peu plus de mal à pénétrer et à s'exporter au niveau international. Et c'est un petit peu tout l'enjeu que la filière aujourd'hui doit résoudre. Et il y a des tas de réflexions qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et une des réponses est effectivement de dire l'écriture, c'est central. L'écriture est au cœur du processus de création. Et il faut que nous améliorons énormément.
Ça, c'est le rapport Berger, justement. Très précisément, ouais,
le rapport
il est
Berger
que sur ça.
Dit cela. Après, je dirais, parce que vous avez la seconde question que vous m'avez pas encore posée, mais que j'anticipe, c'est que pensais-je de ce rapport Berger ? Et je dirais qu'il propose
Qu'est-ce que vous pensez du rapport Berger ?
Il propose effectivement un modèle, donc il y a un modèle inspiré directement du modèle américain, qui est évidemment très
showrunner, équipe collective d'écriture, tout ça.
Une grande hiérarchisation en fait de tous les contributeurs à la création.
Une rémunération claire entre les différents acteurs.
La place de chacun reconnue dans l'économie de la série. Je dirais que bon, c'est un des modèles qui peut être effectivement regardé et dont on peut s'inspirer, mais il y en a plein d'autres. Et je pense que mon point de vue, c'est que la France doit aussi regarder, par exemple, du côté du modèle scandinave, qui est quand même un pays qui est beaucoup plus proche de la France, qui a une histoire beaucoup plus proche de la nôtre, un service public, qui a une histoire dans le cinéma avec le dogme, et qui a réussi une mutation considérable dans le domaine des séries, en favorisant justement beaucoup les passerelles entre cinéma et séries, en d'autre part, travaillant justement sur cette notion de gestion de la créativité, c'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit pas une série comme on écrit un film. La série a des normes beaucoup plus d'écriture beaucoup plus stricte en termes de dramaturgie, en termes de qu'est-ce qui se passe en 60 minutes, quel est le rythme de l'écriture. Et ça ne s'invente pas et ce n'est plus effectivement uniquement la problématique d'un seul individu. Donc tout cet apprentissage de l'écriture collective, il faut y arriver. Le modèle scandinave me semble intéressant parce qu'il est beaucoup plus horizontal que le modèle américain que préconise le rapport Berger.
Trois questions de Zoé Sfez.
La question sur le recrutement et la question aussi sur les profils. Vous l'avez dit, vous êtes extrêmement sélectif, il faut avoir Bac plus 2 pour passer à la FEMIS. Il y a eu un film de Claire Simon qui a suivi le processus de recrutement de votre école, avec des scènes assez trash. Il y a des très très beaux engouements de certains professeurs, et puis à un moment donné, quelqu'un qui dit qu'il ne va pas s'en tirer parce qu'il n'a pas le background culturel, il va pas pouvoir s'en tirer avec les autres, parce que c'est un garçon dont on comprend qu'il vient d'un milieu très populaire. Ça leur arrache le cœur, mais j'ai l'impression qu'ils ne le prennent pas. Il y a d'autres écoles qui ouvrent en France aujourd'hui. Le collectif Courtrage-Mais, par exemple, a ouvert une école à Clichy-Montfermeil avec un point de vue revendiqué. Aujourd'hui, on veut avoir des décrocheurs, avoir des gens qui ont d'autres discours. La Gilly est à Cannes. Comment vous faites, vous, pour essayer justement d'avoir des gens qui sont des gens qui ont d'autres choses à dire, quand même?
D'abord, on pense que nos étudiants ont tous des choses à dire. On les a sélectionnés pour cela.
Quand il y a des gens qui ont des choses à dire.
Cet étudiant dans le film
de
Claire Simon qui effectivement a jeté sur la FEMIS une image justement d'école peut-être élitiste, ce qu'elle n'est pas. J'essaie de démontrer tout à l'heure. Simplement, cette documentariste avait eu la chance de rentrer dans l'école et elle avait fait ce qu'elle voulait.
On a le droit de critiquer les siens.
Cet étudiant qui effectivement était présenté comme étant peut-être ne disposant pas du capital culturel, pour parler de manière un peu plus savante, pour rentrer. Finalement, il est rentré et non seulement il est rentré, mais il a été excellent et il a reçu les félicitations
du
à
jury.
La fin. Et je pense que c'est quelqu'un qui va inventer de nouveaux modèles de production. Parce qu'il faut dire aussi que on est aussi dans le cinéma, dans une époque de transition dans laquelle la télé tendanciellement commence à se désinvestir du financement.
Et le financement et la chronologie des médias sont un petit peu en péril.
Et donc, je pense qu'il faut des gens nouveaux pour inventer des nouveaux modèles. Et lui, il a beaucoup travaillé sur la polyvalence. Il a travaillé sur des choses qui, effectivement, nous laissent penser qu'il peut trouver sa place.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors le ministre de la Culture, Franck Riester, a dévoilé un plan série récemment. Notamment, il y a deux points importants, des formats courts, 20 à 30 minutes, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des formats à 50 minutes, notamment sur les plateformes. Donc beaucoup plus des formats beaucoup plus courts, ce qui n'est pas la tendance à Netflix ou Amazon, par exemple. Et le deuxième point, de démarrer l'écriture d'une deuxième saison, avant même que la première n'ait été livrée. On a vu que par le passé, en France, il y a eu beaucoup de problèmes de séries comme Les Revenants, par exemple, dont la deuxième saison est arrivée quasiment 3 ans après la première. Et ça, du coup, ça coupe l'élan d'une série, et quasiment ça la tue, puisque Les Revenants... ne sont jamais revenus pour le coup. Donc ma question c'était de savoir si ça c'était des choses que vous saluiez et que vous vouliez suivre, notamment cette écriture à la chaîne, parce qu'on est en train de se professionnaliser, d'industrialiser quasiment une production. Est-ce que ça c'est pas un peu antinomique avec ce que vous voulez faire, c'est-à-dire un peu plus artistique, un peu plus pensé? Là on fait quasiment des séries à la chaîne et notamment des saisons à la chaîne.
Donc l'idée d'anticiper la saison 2 pendant la avant même la sortie de la saison 1, oui, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement le public est friand de... Moi je travaillais à Canal+ et j'ai vu comment se comportait le public par rapport à aux séries, c'est-à-dire très impatient dès lors qu'il y a trouvé une forme de reconnaissance ou d'assouvissement de ce qu'il a envie de voir. Deuxièmement, effectivement, il faut une organisation, alors qui peut être entre artisanat et industrie. C'est-à-dire, on a reçu récemment Thomas Lilti, qui a développé Hippocrate à partir d'un film, et nous expliquait que lui-même, dans tout ce chaînage entre un film, une première saison, il était déjà en train d'anticiper, à l'avant la fin de sa première saison, la deuxième. Donc je crois à un modèle original français, pour justement réussir à rendre compatibles les exigences industrielles de la série et une démarche artisanale. Donc ça, c'est la première réponse à votre question.
Et la deuxième viendra après. Nous sommes encore à la FEMIS, dans l'un des studios de la FEMIS. Thomas Château est étudiant, chef décorateur. Il est en train de construire un décor de chambre d'hôtel pour un film. Vous appelez comment ?
Thomas Château.
Et qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis étudiant décorateur en deuxième année à la FEMIS.
Et qu'est-ce que vous faites sur ce plateau ?
Je suis en pleine construction d'un décor de chambre d'hôtel à la Shining, qui était un film de référence pour un exercice de deuxième année de décor.
Qu'est-ce qu'on voit devant nous là ? Pour l'instant, c'est pas trop une chambre d'hôtel.
On a simplement ce qu'on appelle des feuilles, donc des murs en décor, qui sont simplement des battants contreplaqués avec de la moquette qu'on est en train de découper. Et on va bientôt passer en boulot de peinture. On a encore 3 semaines, 4 semaines de travail devant nous. Donc.
C'est vous qui l'avez construit ?
Ah non, je n'ai pas construit. Donc c'est une équipe de construction qui s'en charge, qui a un métier à part, métier de décorateur. Mais j'ai fait les plans, on est deux à faire ce décor, on est toujours en binôme. Des trucs tout bêtes comme des portes, des fenêtres, c'est des choses compliquées finalement, des mécanismes à concevoir. Et voilà, on en est là.
Je découpe du polystyrène. Et on essaye de faire quelque chose qui ressemble à des roches.
Pour l'instant, ça ressemble à de la glace, mais en fait, ça va être plus comme de l'ardoise. Et donc, on a le polystyrène et on le sculpte pour qu'il ressemble à de la roche. En fait, là, c'est un exercice où c'est notre premier décor qu'on construit vraiment de A à Z. Alors, il va servir à plusieurs films. Et là, le thème, c'est un film fantastique. Dans les contraintes de l'argent qui nous est donné, ici on n'a pas le droit de mettre d'eau sur les plateaux, c'est interdit, c'est une des limites, mais finalement on est assez libre. Donc nous on a choisi de faire un espace souterrain avec un laboratoire à l'intérieur.
Quand un film existera, on vous appellera set designer, c'est comment on dit ça en français ?
Chef décorateur. Après il y a, en fonction du système français, du système américain et international, on peut passer de chef décorateur à art director, ou, voilà. Et le poste le plus haut est restant chef décorateur en France.
Voilà, un futur chef décorateur, Thomas Château, à la FEMIS. On est bien noté dans les décors à la FEMIS ?
Au niveau mondial, Hollywood Reporter a récemment classé l'école au 4e rang mondial, qui était une source de satisfaction.
Quelles sont vos dernières questions ? Quels sont vos rapports avec le CNC, dont la directrice Frédérique Bredin sera ou pas reconduite ? Il y a d'ailleurs beaucoup de candidats. On parle d'Olivier Courson, d'Isabelle Giordano, de Christophe Tardieu, d'Olivier Inrard, etc. Selon la lettre A, quels sont les rapports que vous entretenez ou que vous aimeriez améliorer avec le CNC, qui est le Centre National de Cinématographie, c'est-à-dire le CNC, les pouvoirs publics ?
Le CNC que je remercie ici, garantit la pérennité de l'école puisqu'il contribue à hauteur de 75% de notre financement. Donc c'est des relations récurrentes pour là aussi dialoguer sur les évolutions que nous voulons apporter à la pédagogie. Donc tout ça nous va très bien. Il reste que nous avons comme obligation pour développer de nouveaux stages, par exemple le stage showrunner, on n'avait pas les financements publics pour le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir les entreprises du secteur et on leur a dit, regardons comment vous pourriez contribuer à l'organisation d'une formation spécifique sur ce domaine. Alors, ne pas réserver ce type de financement à un seul acteur, au contraire, essayer de tabler sur des contributions relativement...
Par souci de pluralisme, etc.
Pluralisme, oui. Une certaine déontologie aussi, puisque c'est du mécénat, c'est-à-dire on ne souhaite pas que ces parrains ou ces mécènes interviennent sur le contenu pédagogique. Et voilà, et donc c'est un club de partenaires qu'on va, régulièrement... renouveler tous les ans pour nous permettre et aujourd'hui c'est un petit peu ça la démarche, c'est à chaque nouveau projet il faut trouver des financements, sachant que le fonds de le fonds de commerce de l'école est garanti par l'État.
Nathalie Coste-Cerdan, directrice générale de la FEMIS, qui annonce ce soir en direct sur France Culture qu'on ne supprimera pas la FEMIS. Merci infiniment,
on est très contents,
madame,
si
d'avoir été notre invitée. Merci ce soir. Merci à Stéphane Soumier, d'ailleurs, d'être également directeur de la rédaction de BFM Business, qui a été avec nous ce soir et qui rêve, lui, que Martin Bouygues vienne sur BFM Business avant, à la fin du mois de juin, avant votre départ. Donc.
En tout cas, s'il pouvait venir, ce serait bien.
Merci à tous, merci infiniment d'avoir été dans Soft Power ce soir. Soft Power qui continue avec, dans une minute, Zoé 16, votre invité Bruno Patineau qui rentre dans ce studio.
Le directeur éditorial d'Arte et le directeur de l'école de journalisme de Sciences Po qui signe un ouvrage chez Grasset qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention, comment une certaine économie numérique alliée est arrivée, aboutit à une économie de l'attention qui est au bord, disons, de l'explosion et qui a profondément modifié nos vies. Comment faire ?»
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Avengers, sa présence numérique et les projets de Disney, Marvel, de plateformes de streaming anti-Netflix. Nous serons pour en parler avec Emmanuel Paquet de l'Express qui restera avec nous et Vincent Caucase de Libération. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur le site de France Culture, Soft Power, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après le français Astrobal sur France Culture. Astrobal, c'est un projet solo de multi-instruments par le producteur toulousain Emmanuel Mario, construit dans ce cadre une pop futuriste et un peu cosmique comme ça, avec son nouvel album qui est sorti ce vendredi, L'infini, l'univers et les mondes. Il mélange les influences de musique progressive, un peu psychédélique et soul. Le résultat est une pop française, très made in France, qui n'est pas sans rappeler d'autres musiciens toulousains. Je pense à Julien Gasque ou Julien Barbagallo, une véritable école pop électro toulousaine.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bruno Patineau est directeur éditorial d'Arte. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Bruno Patineau, ancien directeur de France Culture, on est très heureux de vous accueillir ce soir.
Je suis heureux d'être là, merci beaucoup.
Et vous signez un ouvrage qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge » aux éditions Grasset, petit traité sur le marché de l'attention. Alors c'est un livre court mais extrêmement dense, une réflexion guidée, on va dire éclairée par à la fois la meilleure littérature en termes de recherche d'articles sur ces questions du numérique, mais aussi par, disons, des amis, philosophes, des films. On croise le meilleur du cinéma français et de la littérature, d'ailleurs, dans ce livre. Ce livre traite, et on peut le dire essentiellement, de ce que vous appelez, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Cette économie de l'attention n'est pas la seule économie engendrée par la transformation numérique, vous le rappelez d'ailleurs dans le livre. Mais de quoi parle-t-on ? Vous commencez votre premier chapitre avec ce chiffre 9 secondes, qui est un chiffre un petit peu provoquant, et probablement une moyenne, mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ces 9 secondes ?
En fait, le livre démarre sur le calcul qu'a fait Google de l'attention, alors comme on dit en anglais, l'attention span, donc le temps d'attention du poisson rouge, qui serait, d'après leur calcul, de 8 secondes, et le temps d'attention des milléniums, ceux qui sont nés avec un smartphone entre les mains, qui serait de 9 secondes. Et donc, on va dire, cette comparaison-là me permet à un moment donné de poser la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et quand je dis qu'est-ce qui nous arrive, je parle pas uniquement des milléniums, évidemment, je parle de moi aussi, parce que moi-même, je me sens de temps en temps dans le bocal de mes écrans. Mmh. et plus tellement libre d'ailleurs de mes mouvements par rapport à ces écrans. Et ce livre parle de ça, de ce qui nous est arrivé, de ce qui est en train de nous arriver. J'essaye d'en établir le diagnostic, de montrer que ça n'est pas le fruit du hasard, mais le produit d'un modèle économique.
Ah, effectivement, on croise d'assez belles figures dans ce livre. Une qu'elle on pense immédiatement et qu'on connaît bien. On lui a consacré de très belles émissions. Tim Berners-Lee, le créateur d'Internet et non pas du web, hein, chercheur au CERN. Et une figure que moi je connaissais plus mal, John Perry Barlow, un militant de libertarien, co-auteur d'une déclaration d'indépendance du cyberespace. Donc tous ces gens-là qui, dans les années 80, puis 90, et puis même au début des années 2000, envisagent, et vous faites partie d'ailleurs des gens qui ont été très optimistes quand on a vu l'essor d'Internet, finalement l'Internet comme un lieu qui génère de grands espoirs humanistes. Et vous dites, nous n'avons pas à faire véritablement de mea culpa, nous ne sommes pas trompés, nous avons été trahis. De quoi s'agit-il ?
Alors en fait, il faut bien voir qu'au début du web, au début de l'Internet surtout, ça charrie tout un grand nombre d'utopies, voire d'idées, auxquels d'ailleurs je n'ai pas renoncé en ce qui me concerne, l'économie du partage, l'accès libre à l'information, la capacité, on va dire, de faire société ou de faire agora entre nous tous, le partage du savoir, de la connaissance, etc., etc. Si je rappelle la figure de John Perry Barlow, c'est parce que lui était à la fois, on va dire, et je le dis de façon positive, une sorte d'illuminé de l'Internet, puisque il faisait appel à la nousphère de Teilhard de Chardin en disant on va créer la conscience universelle, la conscience mondiale grâce à ce réseau universel. Mais l'autre pendant de ce qu'il pensait, c'est que c'était un libertarien, c'est-à-dire qu'il disait ça se créera tout seul et surtout il faut que personne n'intervienne. Personne, ni les États, ni les régulateurs, personne ne doit intervenir. Et cette déclaration d'indépendance du cyberespace qui a beaucoup marqué, en tout cas ma génération, qui a donné lieu à la création de l'Electronic Frontier Foundation, l'EFF, hein, c'est cette idée que si on n'intervient pas, alors quelque chose de quasi sacré va se créer. Et ce qui nous est arrivé finalement, c'est que quelques-unes de ces grandes plateformes, vous l'avez parfaitement dit et je le rappelle toujours, ça n'est pas l'intégralité du numérique. C'est en revanche ce qui pèse le plus sur nos vies aujourd'hui. C'est ceux avec lesquels on est le plus en relation. Eh bien ces gens-là, à un moment donné, simplement parce qu'ils ont dû trouver leur modèle économique, se sont mis à capter notre attention et à faire de l'argent, à développer un modèle économique basé sur l'attention qu'ils arrivaient à conquérir en ce qui nous concerne. Et conquérir notre attention, c'est conquérir notre temps. Oui, voilà ce qui s'est passé.
Ce que vous expliquez, on croise cette figure, alors que moi que je connaissais relativement mal, ce fameux B.G. Fogg, un entrepreneur, en fait un chercheur à la base, un homme qui a une soixantaine d'années aujourd'hui, qui a fait son fonds de commerce, c'est la captologie, c'est comment capter votre attention. Vous décryptez assez bien, vous rappelez, vous faites appel à de bonnes littératures, tout c'est finalement ces concepts de psychologie comportementale que la Silicon Valley a investi, qui sont aujourd'hui au cœur de ce qu'on appelle l'UX design, hein, le design. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être expliquer tout simplement ce fameux mécanisme de la récompense aléatoire ou cet effet Zeigarnik, qui sont les deux, quelques-uns des concepts en fait qui sont au cœur de la manière dont on capte notre temps.
En fait, tout ça est assez simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces sociétés-là qui ont accès à nos comportements, ou plus exactement à nos données comportementales, et qui ont accès potentiellement à l'intégralité de notre temps, puisque nous sommes en connexion permanente. Eh bien, ils vont utiliser des outils qui sont déjà connus pour essayer justement de conquérir du temps sur du temps déjà utilisé. Alors, vous mentionnez par exemple la récompense aléatoire, c'est ce qu'on a appelé la boîte de Skinner. C'est une expérience qui a été faite il y a longtemps, puisqu'elle date de 1931 à Harvard. C'est une souris à la qu'on soumet à un distributeur de nourriture. On constate quelque chose de simple. Quand il y a automaticité entre l'appui sur le bouton et la distribution de nourriture, la souris est maîtresse du phénomène et donc elle n'appuie sur le bouton que lorsqu'elle a faim. En revanche, quand tantôt sort de la nourriture, tantôt rien, donc il y a un côté aléatoire à cette récompense-là, alors c'est le mécanisme qui contrôle la souris. La souris appuie sur le bouton de façon permanente et devient dépendante de ce bouton, et quand bien même elle a faim, quand bien même elle est rassasiée, elle continue à appuyer sur ce bouton. C'est ce qui a donné naissance aux machines à sous dans les casinos. C'est aujourd'hui ce mécanisme de récompense aléatoire qui sous-tend un très grand nombre d'applications que l'on connaît, de Facebook Tinder, à Tinder ou autres.
Bien sûr. L'une des conséquences, évidemment, de cette, disons, de la manière manière dont cette économie de l'attention accapare notre temps, c'est aussi la manière dont finalement, et ça c'est notre point fondamental de votre livre, elle influe sur les contenus même qui nous sont proposés. Car vous le dites, ces 9 secondes, finalement, elles finissent par façonner tous les contenus que nous consommons, aussi bien la musique que la littérature, et surtout, je parle à l'homme de médias que vous êtes, elles influent aussi sur notre rapport au réel.
Oui, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer qu'on est comme, chacun de nous est comme une mine à ciel ouvert, en fait. Enfin, notre temps est comme une mine à ciel ouvert. Donc, capter les premières minutes de notre temps est assez facile, et plus on essaye d'en capter, plus on essaye de façon croissante d'influer sur du temps déjà utilisé, plus c'est difficile. Et donc, plus il faut augmenter, pardonnez-moi l'expression, augmenter la dose de ce qu'on leur va donner. Et augmenter la dose, c'est forcément augmenter une dose à la fois émotionnelle, mais émotionnelle au plus près de nos émotions en tant qu'individu. L'économie de l'attention n'a pas été créée par l'Internet, évidemment. Mmh. Tous les médias sont fondés sur l'économie de l'attention. Mais l'Internet la rend à la fois plus efficace et plus précise. Mmh. Plus efficace parce que la connexion permanente fait qu'on essaye d'attirer notre attention tout au long de notre journée, ce qui n'est pas le cas d'un média traditionnel qui ne nous occupe pas en permanence, et plus efficace, plus précise, parce que nos données comportementales nous permettent d'être au plus près de nos émotions, au plus près de notre réaction. La réaction va plus est plus virale que la réflexion, et la réaction individuelle est plus économiquement efficace qu'une réflexion collective. Et ceci, évidemment, transforme notre rapport au réel, mais notre rapport à l'information aussi, parce qu'il faut être au plus près de nos émotions et nos croyances.
Mais justement, vous parlez, d'ailleurs, vous racontez assez bien ces premières réunions que vous avez eues en tant que patron de PES avec ce que vous appelez vos « frenemies », c'est-à-dire contraction d'amis et ennemis, avec Google, Facebook, dans les années 2000. Vous n'avez pas conscience à ce moment-là des prédateurs qui font devenir aussi pour votre activité. Et vous revenez effectivement sur cette apparition, ce que certains chercheurs appellent de « bad actors » dans le domaine de la presse, ou même dans le domaine tout simplement de l'information, qui sont de trois types. Soit ce sont évidemment des puissances étrangères, on l'a vu avec évidemment le cas de Cambridge Analytica, pas de Cambridge Analytica justement, des élections russes, mais aussi des acteurs économiques et des complotistes. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui, vous le dites, la possibilité qu'on a de réguler, ou en tout cas de sortir ces bad acteurs de la conversation, en tout cas d'essayer de niveler la manière dont ils existent?
En tout cas, on essaye de les sortir en ce moment, mais le but du livre, c'est de dire attention, parce que ce n'est pas en excluant les puissances étrangères, les faux comptes ou autres du système, qu'on va l'équilibrer. Parce que le système est en lui-même déséquilibré, c'est-à-dire que c'est ce modèle économique-là qui provoque cette asymétrie entre, on va dire, le faux et l'émotionnel et le rationnel, entre une réalité qui correspond à nos croyances et une réalité collective. Et donc, c'est cette chose-là, systémique, à laquelle il faut s'attaquer. Et ce que je crois est le but de ce livre-là, c'est juste à la fois de dresser une alerte, ou plutôt d'alerter les gens en disant qu'est-ce qui nous arrive, ça devient plus grand que nous, pour reprendre même le mot de Jack Dorsey hier sur Twitter, mais par ailleurs, c'est aussi un angle mort auquel on ne s'attaque pas aujourd'hui. On parle de fiscalité à juste titre, on parle de surveillance des données à juste titre, mais la conséquence sur nos vies individuelles, on n'en parle pas encore et il faut le faire.
Dernière question, parce qu'évidemment vous faites des propositions, et ça c'est l'une des parties les plus jouissives du livre, on va dire, à la fin, certaines qu'on connaît, qu'on a déjà entendues, que vous n'êtes pas le seul à défendre, la sanctuarisation à l'école, dans certains lieux, laisser son portable à l'entrée de certains spectacles, certains artistes le font, évidemment promouvoir des contenus qui sont de bonne qualité, qui ne sont pas dépendants de cette économie de l'attention, et puis effectivement, assez fondamental, négocier une régulation, non pas des revenus, un meilleur partage des revenus, mais une régulation sur le temps. Limiter, négocier par exemple qu'on puisse limiter avec Facebook au bout d'une heure, ça ne puisse pas continuer.
Mais je pense qu'aujourd'hui ça paraît presque fou. Délirant, ouais. Mais je pense que dans 5 ou 6 ans, le fait de réguler ou en tout cas de discuter avec ces plateformes sur, on va dire, la nature de leurs algorithmes nous paraîtra une évidence. Pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, autrefois il y a eu le capitalisme, on va dire, sauvage qui petit à petit s'est régulé. Aujourd'hui nous vivons dans le numérique sauvage et je pense que petit à petit on va le réguler.
Merci beaucoup Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte, directeur de l'école de journalisme de Sciences Po et donc auteur aux éditions Grasset de ce livre « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention » avec une bibliographie. D'ailleurs, on peut vous conseiller à peu près tous les livres et les articles que vous citez. Merci beaucoup Bruno Patino.
Merci beaucoup.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on va parler d'un sujet qui va vous intéresser encore. Et on est aussi avec Nathalie Coste-Cerdan, directrice de la FEMIS, qui reste aussi avec nous puisqu'on parle maintenant de Avengers.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
le club de la presse numérique ce soir comme chaque dimanche pour terminer cette émission Soft Power. Nous sommes avec Emmanuel Paquet de l'Express, Vincent Cocasse qui nous rejoint de Libération et donc Bruno Patineau et Nathalie Coste-Cerdan qui sont restés avec nous. Avengers, la chronologie des médias, la nouvelle plateforme de Disney, Marvel, tels sont les sujets dont on parle ce soir, notamment à partir de ces chiffres qui viennent de tomber il y a quelques minutes. Ce film donc Avengers, dernier titre, Endgame, 22e des studios Marvel Disney. 350 millions de dollars en deux jours, je crois, Emmanuel Paquette seulement, puisque le film est sorti que vendredi aux États-Unis, alors qu'il est sorti mercredi en France. Plus de 1,2 milliard de dollars au niveau mondial. C'est, on peut le dire tout court, le film le plus successful de l'histoire en termes de ses premiers jours de sortie.
Oui, en si peu de temps, effectivement, 1,2 milliard, ça s'était jamais vu. Encore une fois, le chiffre, ce qu'on peut voir, c'est que dans 44 pays, des records ont été battus sur les 56 dans lesquels le film a été distribué aujourd'hui. Donc c'est quand même un phénomène planétaire, même la Chine y participe, on y reviendra tout à l'heure, avec des chiffres qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Alors il faut savoir que le Marvel Cinematic Universe, le MCU comme on l'appelle, a commencé en 2008, donc ça fait quasiment 11 ans. Aujourd'hui il y a eu 21 films qui ont été réalisés, le premier de la série, donc c'était le premier Iron Man en 2008. Au total, la franchise Marvel a rapporté 18,6 milliards de dollars et a été rachetée donc par Disney en 2009 pour 4 milliards de dollars. Donc le dernier Avengers, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du troisième cycle, ce qu'on appelle dans le MC Universe, et le démarrage d'un quatrième qu'on devrait voir arriver fin 2019, début 2020. C'est aujourd'hui probablement l'une des franchises même qui rapporte plus que Star Wars à Disney, et tout en sachant qu'on voit aujourd'hui de beaucoup de productions, puisque le catalogue était jusqu'à présent détenu en grande partie par Disney, mais également par Fox, puisque Fox détenait les droits sur certains personnages du type X-Men, les 4 Fantastiques ou Deadpool. Et maintenant que Fox a été racheté pour 66 milliards par Disney, et ben le catalogue va être récupéré par Disney, et donc il va y avoir un X-Men qui va sortir cette année, donc ce sera encore un film de super-héros, et il y en aura probablement un autre dès cette année également, mais là produit par Sony avec donc Spider-Man. Donc les films de super-héros aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle mythologie du 21e siècle, hein. On voit autant de films de super-héros que de héros grecs à l'heure de la mythologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le catalogue Marvel, il y a 2500 personnages. Oui. Donc Disney a de quoi faire pendant des années et des années.
Qui autour de cette table a vu le film? Bruno Patineau.
Personne.
Pas encore.
Non, j'ai dans un cinéma de banlieue hier, je suis allé voir El Reino et j'ai été subjugué par la taille de la file d'attente pour voir Avengers Endgame.
El Reino, c'était super.
Est-ce qu'on peut dire quand même, vous l'avez dit, que c'est la fin du troisième cycle et si il bat tous les records, je pense que c'est le film, et ça a été écrit plusieurs fois, plus depuis la sortie, le film où en termes le budget de cachet d'acteurs, et je pense aussi le plus important de l'histoire,
avec tout le monde,
parce qu'en réalité
Chris
il y a
Evans,
tous les gens qui ont
Robert
participé
Downey Jr.,
à tout, je ne sais
Mark
pas
Ruffalo,
à part Brad
Scarlett
Pitt
Johnson,
et George Clooney, je ne sais pas qui n'est pas dans ce film, Natalie Portman, parce qu'en plus tous ces gens qui sont tous d'énormes stars, Gwyneth Paltrow, etc., font des apparitions très courtes, mais ils sont liés, ils sont tenus par un contrat qui les oblige à revenir, et donc en termes de cachet, je pense qu'on est sur des chiffres, mais absolument inimaginable pour des gens de l'industrie.
J'évoquais la question de qui l'avait vu, mais il était impossible de voir ce film aujourd'hui. Par exemple, depuis ce matin à Paris, toutes les salles étaient complètes, ce qui n'arrive jamais. Hier soir, il était impossible de voir. Alors, c'est un film long, il faut dire, donc on ne peut pas le mettre trop souvent dans les cinémas, Emmanuel Paquet a essayé de le voir hier soir. Moi aussi, ce matin, c'était
impossible.
Mais on parle du phénomène, on parlera du succès par la suite. Et on parlera du film dimanche prochain. Sur ce sujet, Vincent Cocasse, qu'est-ce qu'on peut dire de Avengers par rapport à cette plateforme qui devrait être lancée en fin d'année, sans doute en Europe en 2020.
Oui, Disney va se positionner très fortement sur le marché de ce qu'on appelle la SVOD, donc la VOD, la vidéo à la demande sur abonnement payant, donc grosso modo le modèle de Netflix. Ce qu'on peut dire, le lien avec Avengers, pourquoi on en parle ce soir, c'est parce qu'en fait Avengers, tout simplement, les films du ce qu'on appelle le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, vont être tout simplement les produits d'appel de ce nouveau service. Le phénomène va être mis au service de cette nouvelle plateforme. Comment? Ça, c'est le PDG de Disney qui l'a expliqué, en réservant l'exclusivité de ces films pour la plateforme qui n'est même pas encore sortie. Ça veut dire qu'en fait, pendant grosso modo un an, dans le monde entier, Disney va s'asseoir sur les droits de diffusion de ses plus gros films, ce qui représente en gros, ils ont estimé à 150 millions de dollars, donc ce qui est colossal, hein, parce que ça représente 10% de ce que Disney va mettre
en termes de perte de revenus.
Voilà, en termes de perte de revenus, en refusant de le vendre, de vendre les droits à Netflix ou à Amazon, par exemple, uniquement pour se garder les droits pour le lancement de cette plateforme qui sera lancée aux États-Unis fin 2019. On n'a pas la date encore pour la France, mais on estime que ça sera courant 2020.
Donc une sorte de Netflix réservé aux films Disney, Marvel et peut-être à quelques autres qu'ils coproduiront.
Mais beaucoup plus que ça, il y a tout le catalogue. Enfin, on n'est pas encore sûr, mais il faut quand même dire que c'est quand même un moment de changement fondamental. C'est 6,99 $.
Ou moins cher.
C'est rien par rapport que c'est. En plus, Netflix a augmenté ses tarifs, donc qui sont à 12,99 $ maintenant. C'est effectivement tous les Disney, tous les Pixar, tous les Star Wars, tous les Marvel, les actifs de la Fox qui sont énormes. Et en plus, ils sont en train, vous le savez, Disney, qu'il possède une partie de Ulule, qui est cette aussi de Hulu, pardon, oui, je sais. Alors,
H-U-L-U.
Voilà, je me suis trompée. On parlait de crowdfunding il y a deux semaines, tout est perdu. Donc Hulu, qui pour le coup, ils doivent récupérer 30% à Comcast, mais s'ils récupèrent aussi le catalogue d'Hulu, qui est un peu plus cinéphilique, vaguement, mais un peu, pas tellement plus, mais en tout cas, on n'est pas que sur du Disney. Ça veut dire, à 6,99 $, c'est qu'ils peuvent imaginer qu'en fait, n'importe qui a des enfants va s'acheter cette plateforme, en plus d'en avoir d'autres. Ils tablent sur 60 à 90 millions d'abonnés d'ici à 2024, dont les deux tiers en dehors des États-Unis. Pour, à titre de comparaison, c'est 140 millions d'abonnés pour Netflix aujourd'hui, au bout de quasiment une dizaine d'années d'activité, on va dire, au niveau mondial.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors il y a une étude justement qui vient de sortir aux États-Unis, disant que il y a à peu près 14% des abonnés de Netflix qui pourraient quitter Netflix pour s'abonner à Disney+, quand ils ont vu le prix justement assez attractif de 6,99 $. Mais une seconde étude, là pour le coup, qui est totalement à l'opposé, dit que le consentement à payer pourrait porter jusqu'à 6 abonnements à des plateformes différentes, donc à Amazon, Netflix, etc. Donc 6, c'est déjà énorme. En France, on approcherait déjà d'un consentement à 3 plateformes.
Si
déjà
on considère Spotify, par exemple, ou Deezer, ouais, ou d'autres plateformes.
Non, simplement vidéo. Vidéo, effectivement. Et en France,
donc
on s'approcherait
OCS,
déjà.
Etc.
Voilà, c'est-à-dire si on met aujourd'hui OCS avec Amazon Prime, donc on se fait livrer plus rapidement, et en plus, on peut regarder de la vidéo, et on ajoute Netflix, on a déjà 3 services.
Mm-hmm. Sur cette question, Bruno Patidon.
Mais je pense que l'annonce principale, en fait, c'était celle du prix. Oui. Parce que celle du prix a montré qu'effectivement, ils n'allaient pas aller en guerre frontale avec Netflix, mais qu'ils allaient décider d'être un complément, oui, de Netflix. Donc je pense que ça a paradoxalement favorisé aussi Netflix. Et en fait, il y a encore quelques années, on pensait que ce qu'on appelle le cord cutting, c'est-à-dire le fait aux États-Unis de ne plus avoir accès au câble, permettrait aux foyers de faire des économies. Aujourd'hui, l'étude que Emmanuel Paquette mentionne montre que finalement, on va retrouver à peu près le même prix que les foyers américains payaient pour les câbles opérateurs pour des plateformes. Donc en fait, il y aura eu d'une certaine façon un contournement de ces câbles opérateurs, ce qui pose évidemment la question pour la France du devenir des fameuses box, parce que l'IPTV, donc la télévision distribuée par les boîtes, aujourd'hui c'est 60% des foyers. Netflix est sur une des boîtes, Orange pas sur les autres. En OTT, elle est déjà là. Disney va arriver en OTT aussi. Donc toute la question du cord cutting aux États-Unis va arriver en France avec la question sur les boîtes et les box.
Vincent Caucase.
C'est intéressant de dire que c'est pas en concurrence directe avec Netflix, aussi parce qu'ils ne veulent pas être en concurrence directe avec Netflix, même sur le catalogue. Ils ont dit que ça serait un catalogue de, ils appellent ça du divertissement familial. Donc ils n'iront pas, ce qui est pas tout à fait en fait la cible de Netflix, même s'il y a beaucoup de contenu pour les enfants. Ils ont clairement assumé qu'il n'y aurait pas de contenu spécifiquement pour les adultes et uniquement pour les adultes sur
avec
leur
des,
plateforme.
Des séries avec beaucoup de sexe, etc.
Il y a quand même peut-être un sujet autour du budget temps, c'est-à-dire autant le budget argent, comme vous disiez, il y a une acceptation potentielle pour 6 abonnements à des services de séries, mais au bout d'un moment, les gens, ils ont quand même un rythme de vie qui ne leur permet pas de consommer autant d'offres. Donc il va y avoir quand même une guerre commerciale, même si elle est ajustée au niveau tarifaire, qui va quand même être une espèce de fracture très forte dans l'univers du divertissement aujourd'hui.
Bruno Patino.
Oui, c'est juste, mais comme ce qui aujourd'hui a l'air de motiver l'abonnement, c'est le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater. Le fait de détenir des licences Marvel ou autres, comme Star Wars, fait que la peur de le rater fait que vous vous abonnez. Et d'où la politique de Netflix aussi, d'avoir des productions originales lourdement marketées pour que vous ayez à votre tour peur de les rater.
Et localisées d'ailleurs.
Et tout à fait localisées.
Et de plus en plus localisées.
Et Disney, ça fait partie des promesses. 25 séries originales et 10 films originaux par an, promesses sur la plateforme uniquement. On sait sait qu'il y a déjà des films qui vont directement sortir sur cette plateforme sans même passer par la case cinéma comme produit d'appel. Donc c'est aussi une promesse, disons, importante de Disney qui ne compte pas, et qui sait très bien qui ne compte pas être rentable avant 6 ans sur cette plateforme.
Parce que vous parlez, Bruno Patino, de peur de rater, on peut citer évidemment Game of Thrones par exemple, qui en France est sur OCS d'ailleurs ce soir et tous les dimanches soir. En l'occurrence, c'est produit par HBO. Ça veut dire que chacun va également sortir sa plateforme. HBO l'a d'ailleurs laissé entendre. Emmanuel Paquette, Bruno Patino.
Alors celle de HBO, elle existe. Hein. Elle est déjà en Espagne, elle est dans toute l'Europe du Nord. Voilà. Mais elle n'est pas en France, effectivement, puisqu'OCS a les droits exclusifs bon, jusqu'en 2021 ou 2022, de mémoire.
21,
c'est ça, exactement. Donc on verra ce qui se passera après 2021.
Bon, on peut avoir une l'hypothèse est assez probable, assez facile, non?
A priori, il pourrait s'attaquer au marché français, effectivement. Donc ça...
Chercher des alliances avec des acteurs existants.
Exactement.
Oui, c'est... Caucase.
Non, ou chercher, justement, je trouve que effectivement, le fait de dire que les gens n'ont pas le temps de consommer des contenus sur 5 ou 6 plateformes différentes va aussi pousser à un moment à une concentration du marché. Là, on est encore au début du marché de la SVOD. Mmh. On a, il y a quasiment, on en a cité 3, mais avec une puissance de frappe qui est beaucoup plus importante pour Netflix. On pourrait citer aussi MyCanal, qui a un petit peu aussi ce valeur de SVOD dans la consommation. D'ici quelques années, effectivement, il y a des acteurs qui risquent de rester sur le carreau.
Bruno Patino.
Oui, mais je sais bien que le budget temps, c'est ce que dit Nathalie Coste-Cernan, est tout à fait juste, mais c'est paradoxal. Parce que il y a 2 jours, la BBC a publié une étude montrant qu'en fait, elle avait perdu des parts de marché dans le streaming de façon considérable suite à l'arrivée de Netflix. Et en fait, quand ils ont demandé aux utilisateurs la raison, c'est en raison de la faiblesse de la profondeur du catalogue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fois on a un temps limité pour regarder ces plateformes-là, mais on leur demande d'avoir une offre quasiment illimitée, comme si on allait les regarder à toute heure de notre vie.
Paradoxe que vous décrivez dans votre livre d'ailleurs.
C'est un paradoxe, certes, décrit dans le livre.
Et sur Arte, c'est comment d'ailleurs ?
Mais juste pour finir sur HBO, c'est ça peut-être qui peut empêcher HBO de venir en France, c'est que la profondeur de leur catalogue en France ne justifie pas un abonnement à une plateforme unique.
Et Arte plus 7, on vous regarde toujours ou pas, ce fameux...
Arte plus 7, on nous regarde toujours, mais on nous regarde toujours de plus en plus en dehors des 7. C'est-à-dire qu'en gros, le plus 7 n'est plus un plus 7, c'est souvent un moins 7, moins 10, et de temps en temps un plus 30, ça dépend des moments. On essaye de mettre toute une saison quand elle est disponible d'une série, et on remarque qu'on est de moins en moins, entre guillemets, en rattrapage, mais de plus en plus en autre chose. Les gens savent qu'une série arrive, ils regardent l'intégralité sur Arte, et souvent il commence avant même la diffusion antenne.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors il y a un autre risque qui est aussi le churn, le taux d'attrition, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des gens quitter les services quand une saison se termine, en attendant de se réabonner pour la prochaine saison dès qu'elle arrivera. Donc ce principe,
oui, avec
en fait,
notamment une très grande facilité sur Netflix de s'abonner, désabonner, etc.
D'activer, de réactiver.
On peut le prendre juste pour Game of Thrones par exemple, pour OCS, et puis arrêter juste après.
Exactement. Et ça, avec le plus de plateformes il y aura, le plus de taux d'attrition entre les plateformes, il risque d'y avoir. Alors on voit bien que tout ça va se jouer avec l'argent et notamment les productions. Là, Netflix vient de faire un nouvel appel au marché avec 2 milliards de dollars. Au total, ils sont endettés à hauteur de 12 milliards. Donc la question est de savoir, est-ce que les 150 millions d'abonnés aujourd'hui Netflix vont rester abonnés, parce que s'ils commencent à partir, ça va être difficile pour Netflix de pouvoir rembourser les 12 milliards avec des échéances qui sont entre, disons,
même
4
si
à 5
Netflix
ans.
Continue à miser sur l'élargissement des territoires, notamment évidemment des pays où ils ne sont pas encore assez présents et où chaque fois ils ont très vite un succès. Donc.
Exactement, sauf qu'il y a un territoire sur lequel ils n'iront jamais qui s'appelle la Chine.
Chine, ouais.
Donc là, pour le coup, qui est un énorme réservoir de croissance, mais la Chine eux-mêmes poussent leurs propres acteurs locaux,
leur Netflix local,
qui risquent eux-mêmes, à un moment ou à un autre, de sortir des frontières et de vouloir attaquer les marchés étrangers. Donc on risque de voir à un moment donné les Américains face aux Chinois sur des plateformes avec des productions mondialisées.
C'est un prix d'appel, vous croyez, ou ça restera pour Disney? Parce que ça peut être aussi un prix d'appel la première année, les premières années.
Oui, les premières années. Après, personne d'entre nous ne peut prévoir ce qui va se passer. Mais ce que disait Emmanuel Paquette est juste. C'est pour ça que Netflix commence à programmer maintenant ses sorties de séries et même à les annoncer comme si c'était des sorties de cinéma, en fait. Vous savez que tel mois, il y aura la Casa de Papel 3. Tel mois, vous aurez...
Avec des pubs dans le métro,
vous aurez,
comme si
exactement.
C'était des films.
Vous aurez Sex Education 2, etc., etc., pour justement chaîner ces sorties-là, pour éviter le désabonnement.
Ce qui était beaucoup moins le cas avant, où ils jouaient presque plus sur l'effet de surprise,
exactement.
Avec parfois des séries qui arrivaient, ou des nouvelles saisons qui arrivaient, sans avoir été du tout annoncées. Ce qui a marché pendant un certain temps, je pense. Et ce qui est effectivement plus compliqué quand les gens sont abonnés depuis 6 mois, 1 an, 2 ans à Netflix.
Bien, ben on a été 1, 2, 3, 4, 5, 6 à parler d'Avengers que personne n'a vu autour de cette table. C'est une grande première sur France Culture, une émission complète. fait. Dimanche prochain, on espère arriver à rentrer en salle, puisqu'on ne va pas aux séances. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y avait des séances de presse pour ce film.
Non, en tout cas,
on essaiera d'aller en salle dans la semaine. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les six. Nathalie Coste-Cerdan, directrice générale de la FEMIS. Emmanuel Paquette de l'Express. Vincent Cocasse de Libération. Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte. Et Zoé Svez. La semaine prochaine, dans Soft Power, je recevrai Natacha Polony, la patronne de Marianne. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14.
Le jury de Jean-Luc Godard.
Le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que demain matin, dans les matins de France Culture, spéciale élection européenne, à partir de 7h40, avec Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann et Yann Brossa, à ne pas rater. Donc, demain matin, en attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.